Stéphanie Wenker.
Bonjour. Près de 600 demandeurs d'emploi ont bénéficié des primes à l'embauche dans le canton de Neuchâtel. Ce soutien à la reprise économique en temps de pandémie a pris fin le 31 décembre. Dans le canton de Neuchâtel, les aménagements des arrêts de bus tiennent compte des besoins des personnes aveugles ou malvoyantes. Mais il y a tout de même des aspects à améliorer. Un guide vient de paraître au niveau suisse afin de servir de référence. Les entreprises du domaine des routes, des cantons de Neuchâtel, du Jura, de Fribourg ou de Vaud sont dans le viseur de la commission de la concurrence. Elles sont soupçonnées d'avoir coordonné leurs offres pendant des années pour des adjudications publiques. Le ciel nuageux de ce matin devrait laisser sa place à des éclaircies cet après-midi, surtout sur le littoral. Quelques flocons pourraient encore tomber. Le canton de Neuchâtel tire un bilan positif de ses primes à l'embauche. Cette mesure de soutien à la reprise économique a pris fin le 31 décembre. En 8 mois, près de 600 demandeurs d'emploi et des centaines d'entreprises en ont bénéficié, Raphaël Girardin.
Oui, cette mesure qui avait été mise en place pour encourager les entreprises à engager des demandeurs d'emploi neuchâtelois pendant la pandémie semble avoir porté ses fruits. Des primes de 2, 4 ou 6 000 francs étaient versées aux employeurs selon le type de chômeur engagé, comme les moins de 30 ans, les plus de 50 ans ou ceux en recherche d'emploi depuis plus d'une année. Au total, ce soutien unique en Suisse aura coûté 1,7 million de francs au canton. Alors, quels sont les profils ayant le plus bénéficié de ces subsides? Écoutez la chef du service de l'emploi, Valérie Giannoli.
Il y a deux profils en particulier, les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans, qui sont 117 à avoir retrouvé de l'emploi, et puis les demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis plus de 12 mois à l'assurance chômage, ils sont 125 à avoir retrouvé de l'emploi.
Ça, c'était deux catégories quand même qui vous tenaient à cœur de soutenir.
Oui, parce que les personnes qui entrent sur le marché du travail dans le cadre de la fin de leur formation, c'est toujours une période plus difficile. Elles ont peu d'expérience et donc pour nous, c'était important de pouvoir donner ce petit coup de pouce à cette catégorie de personnes pour pouvoir entrer sur le marché. Et puis les personnes qui sont inscrites depuis plus d'une année à l'assurance chômage ou qui ont plus de 50, c'est aussi des personnes qui rencontrent un certain nombre de difficultés à retrouver de l'emploi.
Et au niveau des entreprises, plusieurs centaines ont profité de ces primes à l'embauche, principalement celles du secteur tertiaire et de l'industrie. Et puis, encourager l'engagement de demandeurs d'emploi locaux a également permis de mettre en lumière les compétences des chômeurs neuchâtelois auprès des employeurs. On retrouve Valérie Giannoli.
Il y a une opération gagnante pour les demandeurs d'emploi dans le sens de visibiliser leurs compétences et plus largement faire la démonstration qu'à l'assurance chômage, il y a des belles compétences et que les employeurs qui n'avaient peut-être pas recours à l'annonce des places vacantes auprès des ORP, eh bien peut-être y penseront à l'avenir et auront fait l'expérience de pouvoir découvrir de belles compétences.
Au final, avec près de 600 personnes engagées grâce à ces subsides, c'est aussi 600 personnes en moins qui nécessiteront des prestations sociales. Un bénéfice donc à long terme pour le canton de Neuchâtel. Alors cette mesure qui a pris fin le 31 décembre sera-t-elle reconduite? La réponse de la chef du service de l'emploi, Valérie Giannoli.
Alors, en tant que tel, non. C'est une mesure exceptionnelle dans une situation exceptionnelle. Nous avons été les seuls à la mettre en place parce que nous tenions à apporter une aide directe aux personnes. Nous devons maintenant voir comment la situation évolue, quels sont les besoins beaucoup plus ciblés, soit des demandeurs d'emploi, soit des employeurs. Et puis, nous examinerons au fur et à mesure de l'évolution de la situation et nous ferons des propositions au Conseil d'État si nous devions mettre en place des mesures particulières.
À noter pour finir que cette prime à l'embauche faisait partie d'un large éventail de mesures cantonales de soutien à l'économie en cette période de crise sanitaire.
Merci Raphaël pour ce dossier. Quand une personne malvoyante prend le bus, certaines fois la situation peut s'apparenter à une course d'obstacles. La Fédération suisse des aveugles et malvoyants vient de publier un guide en partenariat avec l'Union des transports publics. Un document de référence qui doit permettre au pouvoir public de construire et d'aménager des arrêts ou des gares qui tiennent compte des besoins des personnes handicapées de la vue. Dans le canton de Neuchâtel, la situation est jugée satisfaisante par les milieux concernés. Il y a malgré tout des détails à améliorer. Nous nous sommes rendus sur la place Puri à Neuchâtel en compagnie de Patrick Mercet, le président de la section neuchâteloise de la Fédération des aveugles. Avec lui et son chien d'aveugle, on suit une des lignes de guidage qui sillonne la place, une ligne qui s'arrête devant un poteau métallique. Patrick Mercet.
Ben voilà, la personne qui suit bien les lignes blanches et tout, il arrive automatiquement dans un piquet qui était posé par la ville. Là, vous arrivez avec la canne, vous êtes allé dans le poteau. C'est ça qui est encore plus fou, on va dire, parce que normalement, on connaît les normes. Le gars qui pose son piquet devant la ligne de guidage, Il doit quand même se poser la question. Si c'est ce que c'est une ligne de guidage, il doit quand même demander à son chef, il est vraiment sûr qu'on le pose là ou pas. Alors on est très content de ce qui a été fait. Hein. Il faut reconnaître, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites pour les malvoyants et aveugles. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on doit encore voir avec Transcène. On a une grande chance parce qu'on travaille énormément avec eux. On se voit plusieurs fois par année. Et il y a eu des formations pour les chauffeurs qui ont été faites. Et si on prend par exemple les annonces vocales, ça faisait des années qu'on demandait et maintenant c'est fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est utile pour nous, parce que voilà, si vous ne voyez pas que vous êtes dans un bus, déjà il faut trouver le bus, mais une fois que vous êtes dedans, c'est de trouver l'arrêt, savoir si on est vraiment à l'arrêt. Après, si on se dirige vers un arrêt de bus, devant chaque arrêt de bus, on va peut-être prendre juste la ligne de la piscine, là, à l'heure actuelle, Xerto Avanti, Xerto, Sini. Si on prend les bus, il y a une formation qui a été donnée, juste à la hauteur des portes, avant, il y a une signalisation très spécifique. On a un carré et les chauffeurs de bus s'arrêtent automatiquement avec la porte avant devant ce carré.
Donc il y a les installations et puis ensuite il y a l'usage qu'on en fait.
Tout à fait. Alors il est bien clair, quand on est aveugle, si je vous mets au milieu de la place publique, je vous tourne trois fois et je vous demande de prendre le bus qui va à la piscine par exemple, ce sera quasiment impossible. Il n'y a pas d'indication qui va nous dire à gauche la piscine, à droite... la gare, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a quand même la chance, c'est que la population est quand même très bienveillante. Et si on demande, les gens nous aident.
Un sujet signé Julien Hirt. Sur rtn.ch, vous retrouverez un reportage plus complet et des informations supplémentaires sur le guide de la Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants. L'extrême droite et l'extrême gauche ont davantage tendance à adhérer aux théories du complot. C'est ce qui ressort d'une vaste étude internationale menée également à l'université de Neuchâtel par Adrian Bangerter. Elle se fonde sur la compilation de travaux menés dans 26 pays et plus de 100 000 participants. Ils ont répondu à des questions telles que « Pensez-vous que Kennedy a été assassiné par la CIA ?» En Suisse, ce sont plutôt les personnes liées à l'extrême droite qui adhèrent aux théories du complot. Adrian Bangerter, professeur en psychologie à l'Université de Neuchâtel, a participé à cette étude.
Dans la pensée ou l'idéologie de la droite, vous avez en tout cas deux composantes. D'une part, on a ce qu'on pourrait appeler le libéralisme économique, c'est-à-dire l'idée que c'est le marché libre, l'État ne doit pas intervenir, etc. Et on a aussi ce qu'on pourrait appeler le conservatisme social, c'est-à-dire l'idée que chacun a sa place dans la société, que la déviance sociale ne doit pas être tolérée. C'est surtout ce deuxième aspect-là qui est corrélé avec les mentalités complotistes, donc un certain conservatisme dans le monde social.
Est-ce que justement les extrêmes peuvent aussi se sentir exclus, ce qui pourrait expliquer cette vision ?
Oui, donc c'est une des explications qu'on a testées dans cette étude. Dans beaucoup de pays démocratiques, de par la manière dont le système politique fonctionne, les partis politiques extrémistes se retrouvent souvent systématiquement exclus du pouvoir. Donc le fait de se tourner vers l'idée d'un complot contre son parti peut servir d'explication pour sa situation d'exclusion, aussi une justification pour son idéologie.
Adrian Bangerter était l'invité de Sarah Massy dans la matinale. Une interview à retrouver en intégralité et en vidéo sur rtn.ch. Le niveau d'études joue aussi un rôle dans l'adhérence aux théories du complot, tout comme les générations auxquelles les personnes appartiennent. Quatre entreprises des cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et du Jura soupçonnées d'avoir coordonné leur soumission et leur prix pour des adjudications publiques durant plusieurs années. La Comco, la Commission fédérale de la concurrence, a ouvert mardi une enquête dirigée contre ces firmes spécialisées dans l'entretien des routes. Des perquisitions ont été menées. L'enquête dirigée contre le cartel de soumission pourrait durer 2 ans. Le directeur de la Comco, Patrick Ducret, nous détaille l'ampleur de cette affaire.
C'est plutôt des routes locales, c'est d'entretenir les routes avec le gravillonnage, c'est plutôt les routes secondaires, c'est pas les routes cantonales ou nationales.
Ce sont les cantons, voire les communes, qui attribuent ces travaux. On peut dire que ces cantons ou ces communes n'ont pas été assez attentifs dans l'examen des soumissions?
C'est difficile à dire, on est au début de l'enquête, on voit pas encore quel était le comportement des communes et des cantons. C'est plutôt des marchés qui sont pas très grands, mais pour le moment, comme on est au début de l'enquête, on voit pas encore l'ampleur, disons la gravité de ce qu'on regarde. On a mené des perquisitions à plusieurs sites d'entreprises. Toute la procédure prend un certain temps.
Pourquoi ces cartels de soumission, c'est quelque chose de négatif?
Parce que normalement, ils mènent à des prix qui sont plus élevés comparé à une situation de concurrence. On a vu ça surtout dans les cantons de Grison, mais là, il y avait la construction, il y avait l'entretien des routes et tout qui était concerné.
En Suisse romande, c'est une première?
Pour le moment, c'est une première, oui. On n'a pas mené des enquêtes pour des cartels de soumission en Suisse romande jusqu'à présent.
Des propos recueillis par Serge Jubin, le directeur de la Comco, Patrick Ducret, n'a pas donné le nom des entreprises soupçonnées. Le secteur du bâtiment suisse mise sur la formation. Il lance une offensive pour contrer une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Le nombre de personnes qui se forment dans la branche ne cesse de baisser et la relève est insuffisante, selon une information de l'Office fédéral de l'énergie aujourd'hui. Les dons d'organes et les transplantations retrouvent un niveau d'avant-pandémie. 484 organes de donneurs décédés ont été transplantés en Suisse l'année passée, selon Swiss Transplant. L'organisme indique encore aujourd'hui que plus de 1400 personnes attendaient toujours un organe en fin d'année. Et puis ce mot de sport pour terminer, un joueur de la région prolonge à Neuchâtel Xamax. Le club de Challenge League annonce aujourd'hui la prolongation de Max Veloso pour une saison supplémentaire, soit jusqu'à la fin de l'exercice 2022-2023. Issu de la formation xamaxienne, Max Veloso était revenu l'été dernier au club après une expérience dans l'équipe moldave du Sheriff Tiraspol. Il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives depuis le début de la saison. Bon appétit à toutes et à tous.